Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonsoir, soyez les bienvenus, c'est Soir Info, 1h30 d'infos, de témoignages, de reportages et de débats. Soyez les bienvenus évidemment, je vous présente tout de suite les grands témoins qui vont accompagner durant ce Soir Info. J'accueille avec beaucoup de plaisir Karima Bouik, soyez la bienvenue, journaliste. Florence Roisse, avocate pénaliste, soyez la bienvenue aussi. Amaury Bucaud, journaliste, bienvenue. Thomas Bonnet, spécialiste politique.
Bonsoir Thierry.
Oui, bienvenue aussi. Jean-Claude Dacier, ravi de vous retrouver, mon cher Jean-Claude.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Oui.
J'ai plein de sujets pour vous.
Pardon ?
J'ai plein de sujets pour vous.
Mon Dieu.
Mais pour nos amis aussi, hein, mais vous verrez à la fin. Et j'accueille avec beaucoup de plaisir Alain Moral, secrétaire général adjoint, CFDT, police, soyez le bienvenu. Allez, merci. On va commencer, une fois n'est pas coutume, en évoquant la situation de nos agriculteurs. Vous allez le voir, ils sont toujours dans l'attente. On sera dans quelques instants avec Brice Guyot, président de la FDSEA Vendée. En tous les cas, ils ont eu beaucoup, vous le savez, beaucoup, beaucoup de paroles. Ils voulaient des actes, du concret. Il n'y a pas beaucoup et il y a moins de manifestations, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais cet après-midi à Nantes, il y a eu un rassemblement. Regardez ce reportage. Mickaël Chaillou, Jean-Michel Decaze, les raisons de la colère.
L'action est symbolique, vu le nombre de manifestants, une trentaine, mais la colère est profonde. Les aides financières pour encourager l'agriculture bio et les éleveurs engagés dans le respect de mesures agro-environnementales, les MAE, ne sont pas tombées le 15 mars comme annoncé.
Ça nous met en difficulté sur les paiements des factures, voilà, comme n'importe quelle entreprise, quand on n'a pas de sous.
Vous attendez combien ?
Nous, sur l'exploitation, 20 000 euros.
Si on nous impose des contraintes et auxquelles on n'est pas récompensé, on va peut-être se dire vous allez vous passer de nous, quoi, on fera ce qu'on veut.
Banderole devant l'administration, slogan rappelant le gouvernement à ses promesses. Le ressentiment est bien présent chez ces agriculteurs. Les braises de la colère de janvier restent vives.
Tous les ans, on sait qu'il y a des paiements de MAE. Tous les ans, on oblige les agriculteurs, ils ont tenu leur engagement et on nous dit que c'est un problème de logiciel. Mais attendez, c'est du foutage de gueule, je suis désolé de le dire comme ça, et on marche sur la tête. Ça fait partie des choses qui ont fait démarrer des actions début janvier.
Ce retard de paiement n'est pas une première. Selon ces responsables de la FNSEA, ces mêmes aides pour l'année 2015 n'ont été versées qu'en 2017.
Allez François, je commence avec vous. Les agriculteurs attendaient des aides, ils ont eu beaucoup de paroles, je le disais. Et les actes ne suivent pas. On le voit, hein, ces aides devaient arriver le 15 mars. Si je m'abuse, nous sommes le 20 mars.
Oui, mais chaque chose en son temps. Je crois qu'il ne faut pas. Et c'est comme dans tous les sujets qui défrayent l'actualité en ce moment. Il faut aussi laisser du temps au temps. Ça ne veut pas dire que les choses ne vont pas se faire, mais ça veut dire aussi qu'on ne peut pas être dans la précipitation. Les aides vont avoir lieu. Je pense que le gouvernement tiendra ses promesses. Il n'y a aucun intérêt à ce que les promesses ne soient pas tenues. Les mouvements ont quand même été assez conséquents. Je crois que le gouvernement a été quand même présent au rendez-vous. Je ne pense pas qu'il faille tout de suite tirer la sonnette d'alarme.
Non, mais ça, c'est juste un constat.
Et puis aussi, ça a été pour pas mal de gens une prise de conscience sur les problématiques des agriculteurs qu'ils ignoraient, sur aussi le fait qu'il fallait peut-être plus consommer français, être attentif à ce qu'on achète. Mm-hmm. Moi, je sais qu'en tout cas, ça a été, en ce qui me concerne, une véritable prise de conscience. J'y pensais pas avant, vous savez. J'achetais comme ça, regardant plus ou moins. C'est vrai que c'est compliqué parfois parce qu'il y a aussi des facteurs économiques dont il faut tenir compte et que tout le monde ne peut pas acheter français parce que ça peut être parfois un surcoût. Mais c'est vrai que ça nous a tous un peu responsabilisés.
Allez, on va retrouver tout de suite Brice Guyot, président de la FDSEA Vendée. Bonsoir Brice Guyot, merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, nous sommes le 20 mars et vous êtes toujours dans l'attente des aides promises. Et effectivement, elles devaient arriver le 15 mars. Quel est un peu votre état d'esprit ce soir ?
Un peu agacé, puisque derrière, on nous avait promis des aides, soi-disant seulement aujourd'hui pour le premier pilier, mais sur le deuxième pilier qui est principalement des aides bio et environnemental, mais aujourd'hui on n'a rien reçu et on est en attente parce que derrière, pour beaucoup d'agriculteurs en Pays de la Loire, ça représente plus de 13%, mais cet argent n'est toujours pas arrivé sur les comptes.
Quel est votre sentiment? Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui d'avoir été un peu trompé par rapport à toutes ces promesses?
Ben, un peu trompé, oui, parce que derrière, quand on annonce comme quoi l'ensemble des aides PAC allaient être payées le 15 mars, vous comprenez bien qu'après faire une pirouette en nous disant comme quoi les aides du deuxième pilier ne seront pas payées pour certaines avant fin juin, de fait, ça exaspère les agriculteurs de se dire comme quoi ben, on doit encore attendre, alors qu'en plus, c'est souvent les agriculteurs qui font un peu plus d'environnement qui sont les premiers pénalisés. Donc oui, c'est frustrant.
Alors, il y a moins d'actions, je le disais, il y en a eu une cet après-midi à Nantes. Est-ce que vous avez l'intention de retourner sur le terrain, de vous remobiliser encore?
Eh bien non, parce que derrière, l'ensemble des sujets sont sur la table aujourd'hui. Les 62 mesures au niveau de la FNSEA sont connues par l'ensemble de l'administration, de l'ensemble des services. Aujourd'hui, on souhaite des actes concrets pour que l'ensemble des agriculteurs de l'ensemble du territoire et des productions voient le changement de méthode, de système et la compréhension de l'agriculture aujourd'hui telle qu'elle doit l'être. Et donc non, nous ne retournerons pas en action. Nous voulons seulement la mise en place de l'ensemble de ces demandes. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est quand et comment.
Quel est l'état d'esprit des campagnes?
Alors aujourd'hui, on est dans une situation où on attend réellement les choses concrètes. Voilà, les agriculteurs ont fait le job dans la communication, dans le respect au maximum des biens et des personnes pour se faire entendre. On a mis tous les sujets sur la table et là, c'est un peu entre deux eaux. C'est qu'on sait que ça avance, mais on n'a pas les choses totalement concrètes qui arrivent dans nos cours de ferme. Donc les gens sont agacés, sont encore agacés. Ce que l'on attend, c'est vraiment la finalisation justement de l'ensemble de ces mesures.
Un dernier message pour le gouvernement peut-être?
Oui, un dernier message, c'est qu'aujourd'hui, prenez acte tout de suite de tout ce qui a été travaillé dites-nous aujourd'hui quand et comment nous mettons en place toutes ces mesures. Il y a encore quelques exemples aujourd'hui qui ont été très compliqués à vivre quand on nous explique comme quoi c'est des logiciels qui ne sont pas encore mis en place, ou alors c'est de l'argent qui dort, car derrière on a des contraintes administratives, c'est très frustrant.
Merci beaucoup Brice Guyot, je rappelle que vous êtes le président de la FDSEA de Vendée. Jean-Claude Dacier, vous comprenez un peu l'état d'esprit de nos agriculteurs? Bon, ils veulent pas faire d'action hein, pour le moment. Ils espèrent encore, mais...
Oui, encore, il y a des actions, notamment dans le sud.
Oui, mais il y en a moins.
Avec moins d'ampleur qu'au mois de janvier. Mais on voit quand même bien que le courant a du mal à passer.
Ouais.
Notamment entre le président de la République, ce qui est relativement rare, et les syndicats. La réunion qui devait avoir lieu à l'Élysée a été annulée. C'est le Premier ministre qui s'y est collé. Je ne sais pas trop quels ont été les résultats. Mais... honnêtement, je sais bien que c'est compliqué, que la crise est profonde, très diverse. Il y a autant d'agriculteurs que d'agricultrices.
Oui, ça.
Et c'est pas simple. Il y a quand même de l'argent qui a commencé à arriver. La Commission européenne s'en est mêlée. Il y a quelques éclaircies, mais qui apparemment ne donnent pas satisfaction aux agriculteurs français. On a remis du plafonnement. On a oublié le blé, qui pose un vrai problème. Il y aura un peu moins de volailles qui va arriver d'Ukraine, mais c'est quand même une difficulté qui n'est que très partiellement réglée. Je vais vous dire, je ne vais pas refaire le détail du dossier parce que ce serait trop long, trop compliqué, je ne suis pas sûr d'en être capable, mais il y a à l'évidence un problème, c'est l'impuissance, la complexité même de l'État qui pose un vrai problème. Il y a, vous savez combien il y a de fonctionnaires sur tout le territoire français au ministère de l'Agriculture? 32 000, autant qu'il y a 15 ans. Et il y a 10 fois moins d'agriculteurs. Il y avait une méthode qu'on a employée quand il s'est agi de préparer les choses et de faire en sorte que tout soit prêt pour les Jeux Olympiques. Ce sont les lois d'exception. C'est la seule façon, je ne dirais pas de court-circuiter, mais de simplifier à l'extrême, d'aller le plus vite possible pour essayer, en respectant un minimum de règles, de donner satisfaction à la colère des agriculteurs, c'est de faire ce qu'on a fait. Si on n'avait pas fait les lois d'exception de 2017-2018 pour notamment construire des logements, pour accueillir les milliers d'athlètes qui vont arriver au mois de juin, au mois de juillet pour les Jeux Olympiques, on en serait encore à discuter entre les différents ministères. C'est l'impuissance même de l'État qui rend les choses extraordinairement compliquées. La loi d'exception, on ne la fera pas sur les agriculteurs. Et pourtant, si on ne réussit pas à simplifier nos démarches administratives et à essayer, pour le président de la République, d'avoir un discours de vision clair qui explique aux agriculteurs ce qui les attend et ce que l'on attend d'eux, on peut avoir un mouvement de mécontentement qui dure encore de longues semaines.
Et là, ils sont relativement modérés. Je vous donne la parole dans quelques instants, Karima. Thomas, vous serez à Bruxelles ce vendredi.
Conseil européen.
Et conseil européen.
Sur deux jours et figurent à l'agenda les questions des agriculteurs. Alors, il y a plusieurs points qui vont être abordés. On a beaucoup parlé de cet EGalim européen porté par le président de la République. Il va tenter de convaincre... Les 27, ça va sans doute être compliqué, mais en tout cas, il va en être question. Question aussi de l'uniformité des contrôles, des mesures miroirs, des traités de libre-échange, de la concurrence même au sein de l'Union européenne. C'est un point qui est beaucoup revenu de la part des agriculteurs. Et puis, il va être question de l'Ukraine. Vous savez que la concurrence de l'Ukraine, notamment des volailles ukrainiennes, a là aussi été pointée du doigt par un certain nombre d'agriculteurs. Il faut trouver le bon équilibre entre des mesures exceptionnelles pour venir en aide aux agriculteurs ukrainiens. Ce qu'on dit aussi du côté de l'Élysée, il faut que ces mesures exceptionnelles profitent aux agriculteurs ukrainiens et pas aux oligarques qui tiennent le marché du poulet ukrainien. Donc il va y avoir beaucoup d'enjeux là-dessus, mais là où Jean-Claude a parfaitement raison, c'est qu'à notre échelle franco-française, la principale difficulté, ce sont les freins, les réticences des administrations. Il en a été question, d'ailleurs, le chef de l'État en a parlé la semaine dernière de cette nécessaire simplification, parce que il y a d'abord le temps que les politiques prennent conscience des problèmes, qu'ils agissent, qu'ils fassent une impulsion politique, et puis il faut ensuite qu'elles se concrétisent dans le réel. Tout ça prend beaucoup de temps, il y a beaucoup de personnes à mobiliser, et je pense que c'est un des problèmes majeur à régler pour le chef de l'État.
En tous les cas, c'était un mouvement éminemment populaire chez les Français. On voit bien que Florence Roy, ça a elle-même changé ses habitudes alimentaires. Et on les trouve relativement patients, les agriculteurs, quand même. Hein.
Oui, c'est ça. Et on l'a vu. Donc, il y a différentes filières, différents problèmes aussi. On peut quand même dire que le gouvernement essaie de faire des choses. Il a annoncé des mesures. Oui. Ils ont fait quand même des choses. Et en même temps, ils sont extrêmement surveillés. On voit que la colère gronde encore.
Mais oui, la colère gronde. C'est pour ça que je voulais qu'on commence cette émission avec un petit focus sur les agriculteurs dont on a beaucoup parlé.
Tout à fait. Mais c'est que la colère, elle est encore là. Ça s'est apaisé un peu. Mais il y a encore des agriculteurs qui sont en détresse. Et on l'a vu tout récemment. Quand vous écoutez certains témoignages, il y a certains agriculteurs plus vulnérables qui ont des problèmes de trésorerie. Et ça, c'est pas réglé. Ça ne s'est pas réglé du jour au lendemain, ça va prendre beaucoup plus de temps. Si on parle aussi plus largement, donc oui, d'un côté, la simplification que peut faire, disons, la France au niveau national, au niveau plus local, il y a cet aspect de simplification. Mais sur les ententes, par exemple, les ententes de libre-marché, il y a quand même certaines inquiétudes. On a parlé déjà du Mercosur ou d'autres traités de libre-échange. Moi, je suis pour qu'il y ait un libre-échange, évidemment, pour qu'il y ait des complémentarités, mais pour, effectivement, la question de la concurrence déloyale, il y a ça. Et il y a tous les enjeux aussi environnementaux, parce que d'un côté, on sait que les agriculteurs veulent participer à cet effort, mais s'ils sont un peu laissés à eux-mêmes, moi, je pense que ce dossier-là est loin d'être terminé, parce que les écolos, en ce moment...
Dès qu'ils veulent développer un projet, les écolos leur tombent dessus.
C'est ça. Donc, ça, il faudra surveiller. Donc, tout ça pour dire que la colère gronde encore et il y a l'échéance des européennes. Donc, ce mouvement peut ressurgir quand même et ils sont prêts à se remobiliser malgré tout.
Il y a une journée importante demain au Sénat, sous ton contrôle. Oui. Les sénateurs doivent dire oui ou non au CETA. Alors, le CETA, c'est encore une aventure typiquement, je dirais pas française, mais européenne, puisque, en réalité, c'est toujours pas signé par la France. Non. L'Assemblée nationale a dit oui, il y a quelques temps.
Il y a quelques années même.
Quelques années. Ouais. Le contrat lui-même, CETA avec le Canada, est en vigueur depuis quasiment 2017. Mm-hmm. Application provisoire. Et c'est le Sénat, demain, qui va dire, l'attitude des Républicains va être très intéressante. En réalité, cet accord, semble-t-il, est très bénéfique à l'économie française. Que vont faire, notamment les Républicains, demain, pour dire oui ou non à ce traité de libre-échange avec le Canada? Ça va être très intéressant et politiquement très intéressant à regarder. Encore une fois, on est sur le fil.
Hein. Ouais, les députés européens des Républicains votent désormais assez régulièrement contre les traités de libre-échange. La différence avec celui-ci, vous l'avez dit, c'est qu'il est déjà en application et qu'il est bénéficiaire pour un certain nombre d'entreprises françaises. Donc le positionnement est d'autant plus délicat
pour
eux.
Absolument.
Et on va écouter Arnaud Rousseau, qui est le président de la FNSEA, justement sur la position aujourd'hui. Vous allez voir, il confirme que les agriculteurs, sans surprise, sont évidemment dans l'attente. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on dit ?
Nous n'avons pas changé d'avis. Pour nous, et c'est une des raisons pour lesquelles tout ça dure depuis longtemps avec une pression qui continue à être mise par le terrain, le sujet pour nous est très clair, c'est la crédibilisation de la parole publique. Et donc, derrière ces annonces, beaucoup de gens nous disent « mais on ne comprend pas pourquoi vous continuez, puisqu'on vous a donné ce que vous vouliez ». Eh bien, non, je suis au regret de vous dire que pour les agriculteurs, qui sont des gens de terrain, ce qui compte, c'est la concrétisation. Et donc, les questions que nous avons posées au Premier ministre hier matin, sur les 62 mesures, c'est comment et quand. Et sur les 62 mesures, le principal sujet, c'est comment et quand.
Voilà, comment et quand, Florence, quand même.
Oui, c'est vrai, mais voilà, ça ne veut pas dire pour autant que les choses ne vont pas se faire. C'est vrai que.
Mais ils n'ont pas beaucoup de temps, vous savez, Florence, les agriculteurs. Ils sont, oui, non, on l'a évoqué,
mais
ils
mais
sont
en situation de détresse. Il y a intérêt à ce qu'ils soient satisfaits. Je pense que je ne pense pas qu'il faille se désespérer et déjà penser que les choses ne vont pas se faire ou être pessimiste. C'est juste que peut-être les choses prennent un petit peu de temps et tout va se mettre en place. Je crois que tout le monde y a intérêt, et le gouvernement en premier lieu, parce qu'ils n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait à nouveau un mouvement de mobilisation comme on a vu les semaines précédentes.
Surtout donc, avec les JO qui arrivent.
Surtout voilà. Avec les JO qui arrivent, entre autres, vous avez raison de rajouter.
Il y a tellement de sujets qui s'entrechoquent en ce moment que je crois qu'ils n'ont pas besoin que celui-ci vienne encore se surajouter. Voilà,
c'est, il ne faudrait pas qu'ils pensent qu'ils ont réglé la situation.
Non, parce qu'elle est loin d'être réglée, la situation.
La suppression de la réunion avec le président de la République a ses mauvais effets.
Officiellement, c'est parce que le président veut conclure la séquence. Je reprends les éléments qui ont été avancés. Il fait conclure la séquence lorsque les syndicats auront eu les réponses qu'ils souhaitent par notamment Gabriel Attal.
Oui, en fait, la séquence n'est pas conclue.
Elle est loin d'être...
me semble-t-il.
Compliqué.
Compliqué, exactement.
Et on n'a plus de sous. Et oui. Ce qui n'arrange rien. Enfin, on n'a plus de sous. Oui. C'est pour ça que j'entendais tout à l'heure, je ne sais plus qui, dire il faut encore emprunter un grand emprunt. Je veux bien, on en est à 3000 milliards. On va bien emprunter quelques centimes de plus.
Allez, on va prendre la direction de Sevran, si vous le voulez bien maintenant. Sevran et l'insécurité et le ras-le-bol des habitants. Plusieurs bus ont été la cible de projectiles et du personnel a même été agressé. Regardez ce reportage de Fabrice Elsner, Thibaut Marcheteau, quelle drôle d'époque. Regardez.
Il est aux alentours de 21h30 quand ce chauffeur de bus filme un autre véhicule pris à partie quelques minutes plus tôt. Très vite, plusieurs individus se dirigent dans sa direction. Il est lui aussi la cible de projectiles avec des voyageurs à l'intérieur de son autobus.
Baissez-vous tout le monde ! Attachez à vous !
Ces agressions ont eu lieu dans le quartier des Beaudottes à Sevran. Au total, deux bus dégradés comme celui-ci, un machiniste et un agent de sécurité violentés par plusieurs individus. Ici, ces agressions ne sont pas un phénomène nouveau. Les habitants sont résignés face à l'insécurité constante dans le quartier.
C'est pas nouveau, c'est tout le temps. Je suis épuisée, c'est fatigant parce qu'on ne sait jamais si on va pouvoir rentrer chez soi, comment on va rentrer chez soi. Je supporte pas la violence dans le coin.
Au bout d'un moment, on n'aura plus de bus, quoi. Parce que les chauffeurs vont en avoir marre. Il y a déjà pénurie de chauffeurs apparemment sur différentes lignes.
Hier soir, Île-de-France Mobilité a décidé de dévier ses services dans certains quartiers de Seine-Saint-Denis de 19h jusqu'à la fin de service.
Alain Morel, je vous ai pas donné la parole encore. Non. Ça, c'est le quotidien de ces chauffeurs de bus. Alors, il y a eu la même chose également à Nantes en début de semaine, hein, puisqu'il y a eu une grève et des chauffeurs de bus et des chauffeurs de tram, puisqu'une conductrice a été agressée. Voilà, c'est le quotidien et c'est aussi le quotidien auquel vous êtes confronté.
C'est le quotidien auquel est confronté nos collègues. C'est des actions qui montrent qu'il y a des quartiers où tout dérange.
Mais là, elles sont spectaculaires, ces images.
Elles sont spectaculaires.
Vous entendez le chauffeur de bus, baissez-vous, etc. Enfin bon, voilà quoi.
Absolument.
Hein. Et donc, ça serait des tirs d'armes, ça serait pareil.
Ça serait exactement la même chose. Tout dérange. Le médecin qui vient soigner dérange, le pompier dérange, le facteur dérange, le policier dérange. Il y a des quartiers où tout dérange. Donc cette difficulté, elle est permanente et nos collègues sont en quelque sorte toujours les fantassins en première ligne pour aller dans ces quartiers protéger les populations. Des populations qui sont en plus très souvent fragilisées dans ces quartiers, par la précarité.
Mais on les entend. Hein,
on les entend. Les premières victimes, c'est eux. Donc c'est une situation qui ne cesse de se dégrader. Des règlements de compte par arme, on a des bus caillassés, on a des gens qui ont peur, des balles perdues qui tuent. C'est un enjeu permanent de société que d'aller dans ces quartiers, protéger les populations et faire le travail de policier qui parfois est bien seul pour assurer la tranquillité publique dans ces quartiers.
Et on voit, c'est la vie de quartier qui est menacée. Et on entend ces personnes qui disent bientôt, on n'aura plus de chauffeur de bus. Et on le comprend aisément à Maury.
Oui, je voulais apporter une petite précision. Donc, cette scène, elle a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez des bus qui ont été caillassés comme ça. Mais je pense que d'ailleurs, c'est le premier bus qui a été attaqué. Il y avait d'abord eu des feux de poubelle. Et si vous voulez, le chauffeur était en train d'essayer d'éviter les feux de poubelle pour pas que le bus prenne feu. Et après, il a été attaqué par ces jeunes. Et cette nuit-là, vous savez, c'était 24 heures après l'attaque du commissariat de la Courneuve. Il y a quand même plus de 26 villes françaises qui ont connu, je les ai comptées avec les rapports de police, plus de 26 villes françaises qui ont subi des émeutes urbaines. Il y en a encore eu la nuit dernière. Et c'est un peu, si vous voulez, les émeutes urbaines, il y en a un peu tout le temps maintenant. C'est quand même quelque chose qui s'est totalement banalisé. Et d'ailleurs, personne n'a parlé de ce qui s'est passé dans la nuit de lundi à mardi. Alors que je vous le répète, 26 villes ont été touchées par ces émeutes, que ce soit des jets de projectiles, des guet-apens envers la police, des bus attaqués, des poubelles incendiées, des voitures incendiées. Il y a un nombre de faits incalculables, mais c'est devenu assez banal en fait.
Je confirme que nous étions en antenne, on en a parlé sur CNews. Hein.
Ah bah c'est bien.
Donc n'oubliez pas.
Non, mais je veux dire, le ministre de l'Intérieur n'en a pas parlé. Ouais. Je veux dire, ça ne va pas faire la une parce qu'on a eu, on a eu des choses tellement pires l'été dernier avec les violences urbaines nationales.
C'est-à-dire que vous êtes en train de dire qu'il faut qu'on s'habitue à vivre avec ce genre de scène, quoi.
Mais
c'est
bien
ça.
Sûr, le seuil d'accessibilité.
Ce qui tétanise le pouvoir politique, c'est qu'ils ont peur d'un embrasement de banlieue qu'on a déjà connu et qui, à 3 mois des élections européennes, ferait mauvais style et mauvais genre. Mais à un moment ou un autre, il faudra quand même essayer de changer notre façon de voir et d'agir. Et est-ce qu'on peut tolérer ça encore longtemps? Ouais, mais on connaît à peine le motif. En tout cas, vous ne me l'avez pas dit ce soir. Le motif de l'attaque des... Il n'y en a pas?
C'est ce que disait Amaury. Non, il y a le contexte. Il y avait des feux de poubelle et que...
Alors, il y a le contexte de la Courneuve. Donc
c'était sans doute le prétexte.
C'est quand même pas toutes les nuits que 26 villes sont touchées par des émeutes urbaines. Je pense qu'il y a un lien avec la Courneuve, même si on ne le sait pas formellement.
On n'a pas fait le lien direct.
Non, mais les bus sont régulièrement attaqués. C'est souvent des...
C'est pour ça que j'évoquais Nantes aussi.
C'est des très jeunes, souvent, les bus. C'est un peu... Je pense qu'ils se disent, tiens, il y a un bus qui passe, c'est comme un animal de loin, un pigeon. Et ils disent, on va lui jeter des cailloux à la...
Vous entendez le chauffeur qui dit, baissez-vous là.
Mais moi, ce qui me frappe dans ces cas-là, c'est les parents. C'est vraiment ces jeunes, ils ont des parents qui peut-être prennent le bus. C'est ça qui m'énerve aussi, c'est que les personnes qui habitent dans ces quartiers sont victimes, mais parfois, pour certaines, sont aussi responsables dans l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants.
Très concrètement, le chauffeur, il peut rien faire par rapport à ça. Il a surtout pas le droit d'intervenir ni quoi que ce soit.
Le chauffeur, visiblement, il a essayé de protéger.
Il a essayé de protéger, évidemment, mais
que peut-il faire d'autre? Il essaye d'échapper au guet-apens, il essaye de sortir de la nasse qui met en danger les occupants de son véhicule et lui-même. D'ailleurs, il me semble qu'il a été blessé, qu'il a eu un certain nombre de jours d'ITT suite à ce caillassage. Donc le chauffeur, il a fait ce qu'il a pu en l'occurrence.
Florence, ça vous inspire un peu ce climat que nous décrivons, que nous cessons de décrire, hélas, ça va, je tentais de dire.
Oui, vous savez, moi, je suis avocate. Donc,
c'est pour ça que je tourne vers vous. Vous savez, c'est pas un hasard si je vous pose cette question, évidemment.
Je ne fais pas que du pénal, mais voilà. Et j'ai de toute façon un réflexe d'avocat. C'est-à-dire, déjà, j'aime bien savoir pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe exactement. Parce que là, bon, on nous montre des images, c'est très bien, bus, caillassé, mais ça peut être tout et n'importe quoi. On ne sait pas. Je m'adresse à monsieur.
On sait quand même,
on voit quand même les images.
On ne sait pas dans quel contexte, on ne sait pas qui l'a commis, on ne sait pas pour quelle raison. Certes, c'est en soi, c'est délictuel, on est d'accord. Mais encore faut-il connaître les circonstances.
Oui, mais quand même, là, on
il n'y a pas de circonstances acceptables.
Il n'est pas question de dire si c'est acceptable ou pas acceptable. Il est question de savoir déjà qu'en est-il, quels sont les faits, qu'est-ce qui s'est passé. À quel moment? Pour quelle raison? De la part de qui? Monsieur qui est policier, c'est ce que c'est, par exemple, quand on fait une enquête, une investigation. On a besoin de comprendre. Mais on ne peut pas se permettre d'apprécier comme ça en disant « Oh, c'est insupportable, oh, machin ». On ne sait même pas de quoi il s'agit.
Je parle sur les gouvernements, évidemment, d'Alain. Ce n'est pas notre rôle. Là, on diffuse... Une impression, je pose juste le débat en disant l'information doit être précise.
Bah, on ne peut pas se permettre de dire, voilà, on voit un bus.
Non, mais ça, c'est précis quand même, les images. Moi, ça ne me dit rien.
Bah, pour vous, ça ne vous dit rien.
Parce que vous habitez
pas
là-bas.
Un autobus qui se fait caillasser, il y avait des gens à l'intérieur, des passagers.
Moi, je veux dire, il n'y a rien à voir. Non, ce n'est pas circuler, il n'y a rien à voir. C'est que j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin, même sur le plan informatif.
Non, on veut tous comprendre.
J'ai besoin de comprendre.
On ne peut pas se contenter de dire « Oh non, mais attendez, c'est insupportable, dans quel monde on vit ?» Parce que là, c'est plus de l'information, c'est du café du commerce, vous comprenez ? Et moi, ma qualité d'avocat...
Je ne peux pas vous laisser dire ça, Florence, ce n'est pas du café du commerce, c'est juste des faits concrets, il y a une personne qui est blessée. Bah, je fais référence également à ce qui s'est passé à Nantes, où une chauffeuse de bus a été blessée aussi, où il y a eu des grèves, ce sont des réalités, ça, Florence, c'est pas café du commerce. Ce sont des faits réels, ça.
Oui, c'est des faits réels, mais moi, en qualité d'avocate, j'ai besoin de comprendre pour pouvoir commenter. Et il n'en demeure pas moins que même si, d'abord, on ne sait même pas si effectivement il y a un lien de causalité entre cet élément, ces faits-là et les faits de la Courneuve avec le commissariat suite au jeune qui a été tué dans le cadre d'une course-poursuite. Tout ça, vous comprenez que pour moi, bon, c'est normal qu'en tant qu'avocate, et ce n'est pas un jugement de valeur, mais j'ai besoin de comprendre le pourquoi du comment. Ça fait plusieurs fois que vous le dites, on a compris aussi,
on comprend ce que vous dites.
Comment vous voulez juger quelque chose? Et après, c'est une situation sans savoir dans quel contexte.
Déjà, les violences urbaines, c'est quand même un phénomène qu'il faut juger dans son ensemble. Vous ne pouvez pas dire, je prends chacun individuel. Effectivement, c'est chaque fois des personnes différentes qui le font dans des endroits différents, peut-être pour des motivations un peu différentes. Et la deuxième chose, vous êtes avocat pénaliste, vous le savez très bien, l'ennui c'est que quand on interpelle ces personnes et qu'on les met devant des enquêteurs placés en garde à vue, et jamais ils n'avouent et ils disent j'ai fait ça pour telle raison. En général, ils disent c'est pas moi, j'étais pas là,
pas
c'est mon copain. Alors la plupart des cas,
vous savez, je
fais des comparutions immédiates, etc. Je le fais souvent et j'ai souvent des rapports de police. Je suis désolé, la plupart du temps, ils nient les faits et ils disent ce n'est pas moi ou ils minimisent. Et donc, on n'a jamais d'explication rationnelle comme on l'espère. Mais on aimerait tous avoir des... Mais on ne l'a pas.
Mais je vous assure que c'est... Alors, premièrement, c'est vrai que d'instinct, quand... D'abord, souvent, c'est vrai que ce sont des jeunes majeurs, souvent. Mineurs ou jeunes majeurs. Ouais. Alors, c'est vrai que d'instinct...
Là, vous affirmez majeurs.
C'est vrai que si on va dans les généralités et qu'on essaye d'essentialiser, allez, partons de ce postulat. Donc, soit des jeunes majeurs, soit des mineurs. Alors, grosso modo... Instinctivement, c'est vrai que l'être humain est ainsi fait qu'il a tendance à, dans un premier temps, tant qu'on ne l'a pas mis face caméra ou à nier les faits, encore que certains reconnaissent. Ça arrive qu'ils reconnaissent les faits. Et ensuite, après, si on devait discuter sur un plan sociologique, ethnologique, économique des choses, alors ça, c'est encore un autre débat sur lequel on pourrait s'étendre. Mais c'est vrai que, si vous me posiez la question, je pense que j'ai un certain nombre de réponses à donner. Pas toutes, mais quelques-unes.
Karima.
Non, moi, je pense que le phénomène de la violence urbaine, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs aussi lignes d'analyse. C'est-à-dire, vous, en tant qu'avocate pénaliste, si vous avez effectivement à défendre quelqu'un qui est pris là-dedans, évidemment, vous faites votre travail, il n'y a pas de problème là-dessus. Sur la question, il y a quand même un aspect sociologique, il y a un aspect aussi simplement de constater cette violence urbaine. Moi, excusez-moi, quand je vois ça, je veux dire, je trouve ça quand même extrêmement choquant. Puis je regardais quand même des chiffres assez précis qui élargissent en fait ce phénomène aussi de violence auquel les gens sont confrontés dans les transports. Je regardais des chiffres où on parlait, par exemple, en 2022 par rapport en 2021, augmentation en Île-de-France de 11,7% quand même des agressions pour les agressions sexuelles dans les transports. transports en commun en Île-de-France. Donc ça, c'est énorme. Il y avait des chiffres aussi. On avait posé la question sur le harcèlement sexuel aussi pour les femmes. Et 87 % des femmes disaient avoir vécu, des femmes interrogées disaient avoir vécu du harcèlement sexuel ou sexiste dans les transports. Donc, je pense qu'il y a un vrai phénomène. Et quand on regarde cette violence aussi qu'on voit comme ça, moi, je pense que c'est jamais une réponse non plus. On peut essayer de chercher toutes les causes ou quoi que ce soit. Je veux bien qu'on se penche dessus. Mais la violence, pour moi, n'est pas une réponse. Quand même.
Et Alain est là pour le confirmer. Et je parle sur le gouvernement d'Alain. C'est un peu le métier, me semble-t-il.
Bon, moi, je pense que, quoi qu'il en soit du contexte et des explications qu'on essaye de formuler, il y a quand même des caractéristiques qu'on retrouve. C'est un service public qui s'exerce dans un quartier. Et c'est ce service public qu'on vise. Qu'il y ait des feux de poubelle, je veux bien. Les pompiers, de la même manière, s'ils viennent éteindre les feux de poubelle, vont se faire caillasser. Donc, il y a quand même un défi de l'autorité. La violence urbaine, c'est un défi de l'autorité.
Enfin, le but, ce n'est pas vraiment l'autorité. Ce que je veux dire, vous voyez, c'est pas vraiment... C'est quand même, pour moi, c'est du nier, c'est tout cassé. C'est tout cassé. C'est s'en prendre à tout ce qui marche, tout ce qui roule. Vous voyez, tout ce qui n'est pas encore dégradé, on le dégrade. Mais je veux dire, en soi, un bus, ce n'est pas une autorité. Le chauffeur, vous voyez bien, le pauvre, il est là en train de conduire son bus, il dit à tout le monde, baissez-vous, il n'a pas d'arme sur lui, il ne va pas tirer, il ne va rien faire, il va juste fuir.
Mais l'autorité publique n'est pas forcément armée.
Oui, bien sûr. Non, mais je vois ce que vous voulez dire. Mais...
Il est quoi ? Eh bien, il est quasiment 23h, elle est avec nous, Maureen Vidal. On va faire un petit tour de l'information. Bonsoir Maureen.
Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Gabriel Attal au dîner annuel du Conseil de coordination des organisations arméniennes. Au cœur du sujet, la guerre dans le Haut-Karabakh. Le secrétaire général de l'OTAN a appelé hier l'Arménie et l'Azerbaïdjan à la signature d'un accord de paix. Le Premier ministre a déclaré que la France ne relâchera pas ses efforts en faveur d'une paix. On l'écoute.
Le président Aliyev lui-même a reconnu que les forces azerbaïdjanaises avaient avancé en plusieurs points du territoire arménien, notamment dans le secteur de Djermouk. Ce sont des faits tangibles. Ce n'est faire insulte à personne que de les rappeler. Nous ne devons jamais avoir peur de dire la réalité des faits. Donc je le dis clairement, l'Azerbaïdjan doit retirer ses forces des positions occupées sur le territoire souverain de l'Arménie. Et je le dis avec d'autant plus de gravité que, évidemment, la Russie ne peut plus aujourd'hui, et pour des raisons évidentes, jouer le rôle de garant du respect des frontières. La France ne relâchera pas ses efforts en faveur d'une paix juste et durable entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan.
Le groupe Vinci réclame une indemnité de 1,6 milliard d'euros à l'État pour l'abandon du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, dont il devait être le concessionnaire. Lors d'une audience, le tribunal a examiné deux affaires opposant la société aéroport du Grand Ouest et ses principaux actionnaires à l'État. Le jugement ne sera pas rendu avant deux semaines minimum. Et nous en parlions lundi. La nouvelle œuvre de Banksy à Londres a été endommagée et protégée, recouverte partiellement de peinture blanche. La fresque portait un message écologique. Des mesures provisoires comme l'installation de barrières et des patrouilles ont été prises et des caméras de vidéosurveillance sont envisagées.
Merci beaucoup, Maureen Vidal. On vous retrouve dans 30 minutes. Il est 23h. Merci de nous accueillir chez vous. C'est Soir Info avec moi, Karim Abric, Florence Roy, Jean-Claude Tassier, évidemment, Thomas Bonnet, Maurice Bucaud et Alain Moral, secrétaire général adjoint CFDT Police. Alors, on va commencer notre dernière heure d'émission en évoquant cette initiative d'un député MoDem de l'Ain. Il s'appelle Romain Daubier et il a déposé une proposition de loi visant à autoriser les professionnels à afficher les visages des auteurs des vols dans les magasins. On en parle avec vous, Amaury Bucaud.
Oui, alors moi je pensais qu'on avait un petit sujet sur la présentation.
Et on aura le sujet juste après.
Ah d'accord, donc moi je vous raconte l'histoire de ce commerçant.
Exactement,
on est d'accord.
Parce que vous avez rencontré un commerçant qu'on aura. Ah ben on a le sujet. Alors on va voir le sujet sur cette proposition de loi.
Peut-être mieux comme ça.
On en parle juste après. Okay. On voit le sujet.
Super.
Diffuser le visage de son voleur sur les réseaux sociaux pour le dissuader de commettre son méfait, c'est le recours utilisé par Jérôme Jean, propriétaire d'une boutique de prêt-à-porter à Amiens et excédé par les vols à répétition.
Ces voleurs en question, ce ne sont pas des petits voleurs comme on les connaissait autrefois, ce sont des vrais
bandes très organisées qui utilisent des moyens technologiques puissants, importants, dont, je précise, le métier est de voler. Donc ça va permettre aussi aux commerçants qui sont à côté de pouvoir savoir que dans leur rue, dans leur ville, dans leur village, il y a un groupe de voleurs qui circulent et qui, effectivement, aujourd'hui se comportent comme ça.
En l'état actuel du droit, cette pratique est punie d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Les députés pourraient donc envisager une dérogation à ce principe pour autoriser les professionnels à afficher les visages des auteurs de larcins devant l'enseigne de leur magasin.
Que les gens qui dirigent notre pays prennent aussi les bonnes décisions. N'abandonnez pas les commerçants français, s'il vous plaît. Ils sont très nombreux à être aujourd'hui totalement découragés, dépourvus de solutions. Ça en est une. C'est l'occasion de marquer le coup et de prendre une bonne décision.
Selon le ministère de l'Intérieur, les vols à l'étalage ont augmenté de près de 15% entre 2021 et 2022, soit quelque 42 000 délits observés, principalement dans les petits commerces.
Alors, Amaury Bucourt, on le voit, hein, c'est interdit par la loi, mais certains commerçants l'ont déjà fait. On va retrouver dans quelques instants, justement, un commerçant victime de vol et qui a lui-même affiché cette vidéo. Racontez-nous ce qui s'est passé et puis on sera avec lui juste après.
Alors, lui, le vol s'est déroulé le 4 janvier dernier. Vous avez deux personnes qui rentrent dans son magasin. C'est en début d'après-midi. C'est un magasin qui vend des lunettes dans le centre-ville d'Amiens. Alors, les personnes qui rentrent sont un couple âgé d'une quarantaine d'années qui d'abord demande un renseignement. Le vendeur, vous le voyez sur les images,
descend dans le stock. Hein.
Et là, vous voyez une des deux personnes qui vole trois paires de lunettes qui sont dans la vitrine et qui tente de les mettre dans son manteau.
Libre service.
Avant que le vendeur ne ressorte des stocks. Mais manque de chance, vous allez voir sur les images, le vendeur arrive et constate justement le vol qui est en cours. Vous voyez, c'est à ce moment-là que ça se passe. Et donc là, forcément, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, rendez-moi mes lunettes. Alors l'autre,
oui, ça, c'est moi
a tenté de, il rend une paire de lunettes et il tente de s'enfuir avec les deux autres paires. En tout, il y en avait quand même pour 950 euros de paires de lunettes. Et donc, c'est à ce moment-là que le vendeur finalement finit par bloquer la porte pour les tenter d'empêcher de partir et récupérer l'ensemble des paires de lunettes qui ont été volées. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après cette scène? Donc finalement, le magasin s'en est bien tiré, puisqu'ils ont réussi à récupérer leurs lunettes. Mais quelques jours plus tard, Bastien, le gérant de ce magasin, apprend que non loin de son magasin, il y a un magasin Kawaii qui a eu un vol similaire, que le responsable du magasin a d'ailleurs décidé de publier les images sur les réseaux sociaux, et il se rend compte que c'est les deux mêmes personnes qui, dans la même journée, avaient fait plusieurs tentatives de vol ou vol. Et donc à ce moment-là, Bastien, le gérant de cette boutique, se dit, par solidarité avec le patron de la boutique de Kawaii, je vais moi aussi diffuser les images sur les réseaux sociaux pour que des personnes puissent identifier éventuellement les voleurs. Mais ça ne se passe pas tout à fait comme prévu. Quelques semaines plus tard, le 4 février, Bastien reçoit un courrier de la préfecture de la Somme qui lui demande de retirer ses images et qui le prévient qu'il n'a pas le droit de le faire, que si vous voulez, il risque non seulement qu'on lui retire les images de vidéosurveillance qu'il a, enfin les caméras de surveillance qu'il a dans sa boutique, mais surtout il encourt 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Donc il a été contraint de les supprimer. Et si vous voulez, c'est ce qu'on va voir avec lui tout à l'heure. Il a eu l'impression que finalement l'État de droit n'était pas dans son camp à lui, qui était le commerçant volé, mais plutôt dans le camp des voleurs.
Et on est avec Bastien justement. Bonsoir Bastien, merci d'être avec nous. Les vols sont fréquents chez vous, pourquoi vous avez décidé de publier ces vidéos Bastien?
Alors oui, les vols sont assez réguliers et effectivement on reste malheureusement dans l'incapacité aujourd'hui de faire quoi que ce soit au niveau de la police ou autre, en fait, à chaque fois on nous dit « Oh, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est pas possible, on les retrouvera pas, bon bref. » Et puis là, effectivement, il y a ce jour-là, il y a eu ce vol de trop, on va dire, et surtout j'ai constaté qu'un de mes voisins avait été volé par les mêmes personnes. Donc effectivement, je me suis dit, par solidarité, je vais faire la même chose que lui, je vais mettre les vidéos pour que les autres les reconnaissent et qu'éventuellement ce couple-là, en tout cas, ne commette plus de larcins dans notre ville, en fait.
Amaury Bucaud.
Oui, moi j'avais une petite question. Et du coup, quand vous avez reçu ce message de la préfecture, est-ce que vous êtes entré en contact avec la préfecture depuis? Comment vous l'avez pris ce courrier de la préfecture qui vous demandait finalement de retirer ces images et qui vous menaçait pas, mais qui vous rappelait l'état de la loi en vous disant que vous encouriez quand même 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende?
Ouais, effectivement, on se dit que la peine est lourde parce que finalement, on risque nettement plus que ceux qui commettent le larcin, ce qui est quand même relativement triste, je trouve, et ce qui est totalement incompréhensible parce que effectivement, nous, on n'a rien demandé, on achète notre stock pour le vendre à nos clients et non pas pour se le faire piller comme c'est le cas actuellement, et de rester vraiment totalement impuni. Et là, clairement, nous, on risque vraiment très très cher.
Et les images sont floutées, Bastien. Les images étaient floutées.
Hein? Alors, nous, quand on les a publiées, elles n'étaient pas floutées, effectivement. Le but étant de pouvoir reconnaître les personnes.
Exactement.
Et ce qui serait formidable,
c'est ça qui est répréhensible.
Oui, c'est ça qui est répréhensible, ouais. Mais ce qui serait bien, surtout, c'est qu'on puisse effectivement, et c'est ce qui est demandé, diffuser les images pour pouvoir et prévenir les commerçants locaux et éviter que ces personnes-là reviennent chez nous, effectivement.
Oui, alors que pensez-vous justement, pardonnez-moi, Amaury, que pensez-vous de cette proposition de loi ? Je suppose que ça va dans le bon sens pour vous.
Ah bah tout à fait, ouais, c'est dans le bon sens et ça paraît juste logique et apparemment dans d'autres pays ça se fait déjà. Donc effectivement ça peut éviter encore une fois que les gens reviennent et puis de perdre effectivement de la marchandise comme ça, c'est totalement improbable quoi.
Faut quand même juste le dire, et Bastien vous me couperez si je me trompe, mais ces images vous les avez diffusées sur vos réseaux sociaux, vous les avez pas diffusées sur les réseaux sociaux dans l'absolu, c'est quand même les pages Facebook si j'ai bien compris de votre boutique, donc en soi a priori il n'y a que vos clients et les personnes qui côtoient votre magasin qui ont été informées de ces images.
C'est ça. Bon, après, on sait que les réseaux sociaux sont quand même très virulents, mais effectivement, c'était publié sur la page Facebook et la page Instagram de ma boutique. Et techniquement, effectivement, c'est surtout mes clients qui l'ont vu. Et d'ailleurs, la plupart ont halluciné qu'on puisse effectivement avoir autant de vols de lunettes et que ça se fasse aussi facilement. Et ils n'arrivent même pas à comprendre pourquoi ni comment ça se passe, en fait. Et ils comprennent encore moins comment ça se fait qu'on n'a aucune aide et que la police ne fait rien, quoi.
Restez avec nous, Bastien, si vous le voulez bien. On va ouvrir le débat avec nos invités. Florence Roy, en tant qu'avocate, qu'est-ce que vous pensez de ça ?
Bon, bah déjà, je comprends la position de monsieur, parce que c'est vrai que c'est insupportable d'être comme ça victime de vol et que ça a des incidences sur plan économique et on comprend sa colère. Déjà, ça, c'est le postulat de base. Maintenant, il faut aussi qu'il comprenne une chose, monsieur, que c'est dangereux, ces histoires de balance ton vol, balance ton voleur. Ouais. Voyez, pourquoi ? Parce que d'abord, c'est vrai que c'est contraire à la loi de capter l'image de quelqu'un et de la diffuser. C'est l'article 226-1 du Code pénal. On n'a pas le droit de... Vous savez, c'est un sport national maintenant. Mmh. Les gens enregistrent quelqu'un qui vous parle, alors que c'est interdit. On ne peut pas enregistrer les gens comme ça à leur insu, de même que les filmer à leur insu, et encore moins diffuser leurs images et les enregistrements. Donc c'est ça qui a été... les raisons pour lesquelles il a été pénalisé. En tout cas, on l'a informé que ça constitue une infraction. Par ailleurs, il faut savoir que... On a des garde-fous en France, et c'est valable dans tous les domaines, et on en a beaucoup parlé, notamment dans les histoires de MeToo, dans Balance ton porc, etc. Mmh. C'est la présomption d'innocence. Ça veut dire que tant que quelqu'un n'est pas condamné définitivement, mais vraiment définitivement, eh bien, il est présumé innocent. Alors, je comprends que monsieur veuille faire acte de civisme à l'égard de ses collègues, confrères, en les informant, en les mettant en garde des voleurs rôdent, etc. Mais c'est compliqué parce que, si vous voulez, il y a ce cas de figure auquel vous avez été confronté, monsieur, mais il peut y avoir des dérives à tout cela. Et vous savez, après, c'est le Far West, c'est
l'heure ce qui se passait... avec les chauffeurs de bus, etc. C'est quand même le symbole d'une certaine exaspération de la population, quoi
certes,
qu'on en dise.
Mais
c'est
certes,
ça la réalité
mais
aussi.
Quand on est confronté à un mal, quel qu'il soit, et encore une fois, il faut s'attaquer aux racines du mal. Mmh. Parce que si on se contente, si vous voulez, de mettre un pansement sur une plaie, ça ne va pas faire grand-chose. Donc en réalité, que ce soit dans ce cas-là, comme dans celui de Sevran, comme peut-être on parlera de Marseille, etc.
On parlera de Marseille,
etc.,
ne vous inquiétez pas.
Eh bien, il est important d'aller aux sources du problème, qui sont très complexes.
Bastien, une réponse sur ce que vient de dire Florence Rouas.
Oui, après, présomption d'innocence, comme on dit, effectivement, je comprends que c'est que c'est le juge qui doit le définir. Maintenant, présomption d'innocence, là, sur les images, c'est clair. Ouais. On voit parfaitement la personne prendre le matériel, le mettre dans sa poche, et nous, régulièrement, c'est comme ça que ça se passe, en fait. Donc là, pour moi, c'est plus de la présomption d'innocence. Là, clairement, il est coupable.
Alain Morel, en tant que policier, et Jean-Claude et Karima. Alain.
Oui, on comprend bien l'exaspération.
C'est le symbole d'une certaine exaspération.
L'exaspération des commerçants qui vivent des vols à l'étalage, souvent de manière récurrente. Après, il y a ce qui est possible de par la loi, il y a ce qui n'est pas possible. Donc, ce qui est possible, c'est d'avoir un lien avec les autres commerçants, de signaler Attention, moi j'ai deux personnes qui sortent de mon établissement, ils sont habillés comme ça, il y a un homme, il y a une femme, attention, méfiez-vous. En même temps, on appelle effectivement le commissariat de police locale, on donne également les signalements, il y a des images de vidéosurveillance dans la plupart des villes, on peut peut-être les suivre à la vidéosurveillance, procéder à une interpellation, tout ça dans le cadre de la loi. Après, on est d'accord, c'est pas cette affaire de vol à l'étalage qui va se retrouver forcément au tribunal correctionnel le mercredi ou le jeudi suivant.
Mais ce que raconte ce Bastien, que j'ai eu au téléphone, et vous allez le confirmer, je pense, mais c'est que finalement, le problème, c'est que même quand Bastien a porté plainte, moi, c'est ce qu'il m'a dit, même parfois, une fois, un des voleurs avait oublié un document avec son adresse, il ne s'est rien passé, il a attendu 8 mois. C'est ce que vous m'avez dit, Bastien, tout à l'heure. Vous avez attendu 8 mois, c'est ça
Bastien ?
Et il ne s'est rien passé.
En fait, donc, une personne a volé une paire de lunettes chez nous. C'était d'ailleurs le premier vol qu'on a eu dans le magasin. Et la personne a perdu une amende avec son adresse dessus. Donc je suis allé porter plainte. Ça m'a coûté une demi-journée quand même, parce que c'est relativement long. On m'a dit, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Je lui ai dit, bah, écoutez, là je vous fournis quand même son adresse. Donc clairement, vous pouvez récupérer au moins ce qui a été volé chez moi. Je leur avais fourni la vidéo également à l'époque. Et finalement, 8 mois après, on m'a recontacté en me disant, bah, écoutez, on ne l'a pas retrouvé.
Voilà. Jean-Claude, je ne vous ai pas entendu sur le sujet.
Oh, écoutez, c'est terrible parce que ce que je trouve le plus incroyable dans cette histoire, c'est qu'il y a un stagiaire, probablement de l'ENA, qui envoie un courrier de la préfecture.
On ne sait pas, nous mettre pas avec l'ENA, Jean-Claude.
Attention, vous risquez une amende, combien
45 000.
45 000 euros, etc. Le voleur, ce n'est pas grave, on va le rééduquer. Dans quelques années, il aura cessé de piquer des lunettes chez un opticien. Honnêtement, les images circulent maintenant partout, pas seulement sur les réseaux sociaux. On en voit partout. C'est un outil, c'est une arme, c'est une preuve. Ce type est un voleur. Il est, bon, il mérite pas 20 ans de prison. Mais néanmoins, ce qu'il a fait est inacceptable. Que ces images soient diffusées sur le réseau de ce commerçant ne me gêne absolument pas. C'est une arme maintenant. Tous les maires qui, il y a encore quelques années, notamment les maires socialistes, qui refusaient d'installer des caméras de vidéosurveillance dans les rues de leur ville, ont tous ou presque, changer d'avis, parce que c'est utile, parce que vous pouvez, grâce au témoignage de ces images, retrouver un certain nombre de témoins ou de voleurs, ou plus grave. Donc je crois qu'il faut accepter une certaine modernité. L'image doit pouvoir participer à l'enquête et aux services rendus. En l'occurrence, il s'agit d'essayer d'éviter que ce monsieur et sa femme recommencent dans la boutique d'à côté.
Moi, ce que je voulais juste dire, c'est que effectivement, je pense que c'est pas une bonne mesure dans l'absolu de se dire qu'effectivement on affiche des voleurs.
Et vous pensez que cette proposition de loi risque d'être retenue ?
Non, mais l'objectif, ce n'est pas ça. Non. L'objectif, c'est que ce soit dissuasif, c'est que les voleurs n'aient plus envie de le faire parce qu'ils savent qu'ils risquent ça. Vous voyez ce que je veux dire ? L'objectif, c'est pas la punition. L'objectif, c'est que finalement, on sache qu'on puisse être puni directement et rapidement, et donc qu'on ne veuille plus voler. C'est ça, et que les commerçants soient tranquilles.
Et qu'une sanction à un moment où.
Oui, mais même non, parce que là, c'est du comme on dit en anglais, du name and shame, c'est-à-dire qu'en fait, vous dénoncez à la vindicte populaire des gens qui, du coup, ne veulent pas, si vous voulez, que leur honneur soit non plus brandi comme ça, et donc ils décident d'eux-mêmes d'arrêter de voler parce qu'ils savent que la sanction, elle est directement là.
Florence, deux mots.
Oui, après, il y a des gens qui peuvent masquer leur visage, il y a des gens qui peuvent mettre des masques.
Quand vous rentrez dans un magasin, ils peuvent se déguiser. Visage masqué, c'est
une non, mais ils peuvent se mettre une. Ils peuvent se déguiser. Ils peuvent se mettre un. Et ça peut être la porte ouverte à des erreurs judiciaires.
Mais bien sûr.
Karima, je vous ai pas entendu deux mots rapidement avant de remercier Bastien.
En fait, ce que je vois, c'est que finalement, effectivement, ça doit être insupportable parce qu'on voit des commerçants qui essaient de gagner leur vie dignement. Et ce que ça montre aussi, oui, il y a une certaine lenteur du processus. On voit aussi que ce type de vol, ce n'est pas nécessairement la priorité. On sait que les services de police sont souvent débordés par plein d'autres choses. Et on se dit souvent, bon, ben les assurances finiront par payer. C'est comme si on banalise un peu la chose, alors que non, on ne sait pas, premièrement, à qui on a affaire. On ne sait pas aussi, il peut y avoir même chez certains voleurs qui peuvent être aussi violents. Donc, c'est vrai que d'afficher, ça peut aussi comporter certains risques. Il y a ça aussi. Donc, non, c'est une situation, je trouve, absolument impossible pour personne.
Le mot de la fin avec vous, Bastien. Deux mots rapides. Et merci d'avoir accepté en tous les cas de témoigner.
Oui, il n'y a pas de problème, avec plaisir. Mais juste pour répondre à la dame qui a parlé juste avant, en fait, les assurances ne nous couvrent rien du tout. En fait, si on veut être couvert par l'assurance, il faut que sur les vidéos, on voit qu'on se fait taper dessus. Donc là, c'est juste improbable.
C'est dingue.
Bastien, merci beaucoup. C'est important de vous avoir. Merci à Maury, évidemment. Deux mots très, très rapidement, oui. Alain Morel. Très
merci,
rapidement.
Parce qu'on très va aller à Marseille rapidement, cette affaire et notre intervenante vient de le dire un petit peu sur les services de police et notamment d'investigation qui sont submergés. C'est une réalité. On surfe sur toutes les priorités nationales, sur les violences intrafamiliales, sur tout un tas d'agressions plus crapuleuses et plus violentes les unes que les autres. Et dans ce maelstrom d'affaires judiciaires que doivent traiter les services d'investigation de la police nationale, il est très compliqué, même en cas d'identification des auteurs, d'amener une affaire à la poursuite. Mmh. Bon, une affaire de vol à l'étalage, ça doit être une affaire de procédure simplifiée. La procédure est très complexe. Elle est lourde et elle est chronophage. Et il est beaucoup plus simple de commettre un délit que de faire la procédure pour l'emmener devant le juge.
Allez, direction Marseille. Vous voulez qu'on aille à Marseille, Florence ? Ben, on va aller à Marseille, justement. Troisième journée de l'opération Place Nette dans la cité de la Castellane. On va revenir sur cette visite surprise d'Emmanuel Macron, qui a fait beaucoup causer. Il n'a pas parlé de l'OM à Marseille.
Il n'a pas parlé de l'OM. Pas cette fois-ci.
Hein. Vous savez qu'il est fervent supporter de l'OM, il n'en a pas parlé. On va d'abord regarder, justement, le sujet de Régine Delfour et de Stéphanie Rouquier, parce que les CRS contrôlent la cité de la Castellane. Regardez comment ça se passe.
Impossible d'entrer dans la cité de la Castellane sans passer les barrages. Postés aux différentes entrées, des dizaines de CRS contrôlent chaque véhicule et chaque piéton. Si de nombreux habitants se sentent rassurés, ils continuent d'avoir peur de témoigner.
Je ne peux pas répondre.
Je préfère pas prononcer sur ce sujet.
Mais ces fouilles en agacent aussi beaucoup.
Ils mettent tout le monde dans le même sac, c'est pas normal, franchement. Regardez, je serais avec les clés, moi j'ai fini à poil.
En ce troisième jour de l'opération Place Nette XXL, la présence policière a pour objectif d'empêcher les dealers d'opérer dans la cité. Spanish, un jeune dealer de 16 ans, nous avoue que ce n'est pas vraiment un problème.
Si, je peux travailler si on va ailleurs.
Il dit vivre en foyer et avoir besoin d'argent.
Je vends, je guette, je fais tout. C'est que c'est pas bien, mais c'est le moyen pour gagner des sous. Après, il y en a d'autres, je sais.
Selon les autorités, les différents points de deal de la cité rapporteraient entre 50 et 80 000 euros par jour.
Allez, avant d'ouvrir le débat, je vous fais le bilan provisoire, évidemment provisoire, de cette opération Place Nette. 119 interpellations, on va les voir à l'écran, 87 gardes à vue, 22 kilos de cannabis saisi, 1 kilo de cocaïne, plus de 400 000 euros et 13 véhicules et 4 armes. Voilà, vous avez le bilan. On va écouter le préfet de police des Bouches-du-Rhône qui s'est exprimé cet après-midi et on ouvre le débat après.
Nous ne lâcherons rien là-dessus. Nous ne lâcherons pas, nous ne laisserons pas les dealers revenir sur des points de deal à la Castellane et nous continuerons nos opérations partout dans le département et partout à Marseille. Donc voilà, il y a des choses qui sont dites, certains ont vu des individus revenir, ont pu penser que des dealers revenaient. Nous sommes là, les policiers CRS, les policiers de la sécurité publique sont là en présence en permanence et la nuit nous avons aussi nos équipages civils, nos équipages de sécurité publique qui poursuivent la permanence et la présence et des investigations sur l'ensemble du département et notamment à la Castellane. Et donc voilà, je voulais réaffirmer que nous ne laisserons aucun répit à ces dealers dans les prochaines semaines.
Et je vous ai dit 119 interpellations, c'est 120 interpellations. Et c'est important quand même. Alain Morel.
Oui, il y a...
Ou pas comme hier.
Ah, il y a très peu de temps, des magistrats marseillais qui évoquaient que... Oui. L'État menait une guerre asymétrique contre les trafics de stupéfiants. Asymétrique parce que les narcotrafiquants bénéficient de moyens hors normes, que ce soit financiers, que ce soit humains, que ce soit technologiques. Et par rapport à cette situation-là, la police nationale, et je le disais tout à l'heure, du fait de la procédure pénale, du fait de tout un tas de sujets, et peut parfois être en difficulté. Donc opération de com' ou pas opération de com'. Moi, ce que je vois, c'est qu'il faut attaquer le problème par tous les côtés. Et l'attaquer par tous les côtés, c'est l'attaquer sur place, dans les cités.
Oui, mais on a vu, c'est pas la première fois. Il s'est passé combien de fois, Emmanuel ?
La 13e fois.
13e fois.
C'est le faire pas qu'à Marseille. Et on constate une marseillisation des grandes villes françaises, à Rennes, à Nantes, à Nîmes, à Avignon. Et Cette lutte contre le trafic de stupéfiants, elle doit se faire à l'international, elle doit se faire auprès du consommateur, elle doit se faire auprès du dealer. Aujourd'hui, à la Castellane, si on y est présent, parce que c'est là que se concentre du gros trafic de stupes, on sait également qu'il s'adapte. On a l'ubérisation du trafic de stupes. Ça passe par les réseaux sociaux, par Telegram, par Snapchat. Vous faites votre commande. Ce matin, désolé les gars, il y avait la police à la maison, on n'a pas pu vous livrer. Vous inquiétez pas, on travaille jusqu'à 3h du matin, on va rattraper. Donc on est face à un problème multifactoriel qu'on ne peut pas ne pas traiter à tous les niveaux. Donc opération de com, sans doute. Opération de com, mais opération nécessaire que d'attaquer le problème sur cette racine-là. Opération de com également pour les habitants, je le disais tout à l'heure. Ces habitants-là, c'est ceux qui vivent les règlements de compte. Marseille, 49 règlements de compte mortels en 2023. 57% des homicides et tentatives d'homicide sur le territoire français sont commises dans le cadre de trafic de stupéfiants ou en lien avec des trafics de stupéfiants. Il y a un vrai travail de fond à faire, à l'international également. À l'international, il faut saisir les avoirs, il faut donner des moyens aux enquêteurs pour saisir les avoirs, il faut taper là où ça fait mal. Je regardais les résultats tout à l'heure, j'ai pu constater avec une certaine satisfaction qu'on prenait de l'argent, qu'on prenait des véhicules. Et c'est ce qu'il faut faire.
C'est pour ça que vous avez signalé
de l'immobilier, le bilan. Il faut taper là. Donc il ne faut pas simplement dire qu'on est en train de vider le tonneau des Danaïdes, il faut le faire, et il faut le faire partout, et il faut de la coopération internationale. Il faut interpeller à Dubaï, il faut interpeller au Maroc, il faut interpeller en Espagne, il faut qu'on soit capable d'aller à Dubaï et d'extrader, et non pas d'avoir une problématique de procédure internationale qui fait qu'on relâche deux mises en cause à Dubaï. Voilà, le problème, il est large.
Je voulais vous faire écouter Éric Dupond-Moretti qui s'est exprimé justement sur ce déplacement et sur la situation à Marseille.
Le trafic de stupes, c'est l'affaire de tout le monde. C'est pas que l'affaire des policiers, des douaniers, des gendarmes, des magistrats, des greffiers.
On l'a entendu avec le témoignage de Frédéric, c'est l'affaire de tout le monde.
Ce que je veux vous dire, madame, c'est que celui qui fume son petit pétard le samedi, ce pétard-là, vous voyez, il a le goût du sang séché sur le trottoir. C'est 50 homicides volontaires. Je voudrais que on remette tout ça dans le bon ordre. Hein. Si les gens se tuent, si les gens trafiquent, c'est parce que il y a quelques bobos, quelques petits bourgeois, gens qui, de façon totalement inconsciente, pensent qu'ils ont le droit de fumer du shit le samedi soir. Ça, je veux le redire ici, c'est l'affaire de tout le monde.
Alors, Amaury, on évoquait opération de com ou pas avec Alain. Vous avez pu échanger aujourd'hui avec un policier marseillais qui a participé à cette opération XXL. Et évidemment, vous avez quelques petites informations à nous donner. Vous avez parlé en off, mais il vous dit un petit peu choses quand même majeures et essentielles sur comment les choses sont perçues et comment elles sont vécues, notamment par les policiers.
C'est un peu un retour d'expérience. Alors ce qu'il dit, c'est que d'abord le point positif, évidemment, c'est que pendant une journée, les dealers ne peuvent pas faire leur trafic, que les habitants sont rassurés, qu'il y a un énorme signal communication qui est envoyé. Mais il y a effectivement plusieurs points négatifs, on va l'entendre, ce policier, mais il y en a un que je voudrais souligner particulièrement, c'est le fait qu'en fait, quand on en a parlé, plus de 120 interpellations et donc 87 personnes placées en garde à vue. Or, vous avez à peu près une centaine de places dans les geôles, dans les places de garde à vue, dans les commissariats marseillais, ce qui veut dire qu'on sature totalement les commissariats marseillais et que toutes les activités annexes, que ce soit les interpellations, par exemple, dans le cadre de vol ou d'agression, eh bien, les policiers ne peuvent plus les mettre en garde à vue puisqu'il n'y a plus de place. Donc c'est un véritable problème derrière à gérer pendant les 48 heures que vont durer ce garde à vue et qui va d'ailleurs se répercuter forcément sur la justice. On va l'écouter.
On écoute.
Du point de vue policier, nous embête, c'est qu'après, pour les OPJ qui récupèrent les interpellations derrière, ils n'ont pas les moyens de suivre toute cette amas d'interpelles en plus de la délinquance générale. Il n'y a pas les moyens, il manque du monde, il manque des places en geôle. Par ailleurs, ça sollicite aussi beaucoup d'effectifs locaux, que ce soit pour guider les CRS ou pour faire des opérations en même temps qu'eux. C'est d'autant plus d'effectifs qui ne sont pas ailleurs en attendant, qui sont bloqués pendant plusieurs heures sur les vacations. Un troisième point négatif qui est relevé, c'est que ce sont des opérations ministérielles, en fait, donc détachées complètement de chaque division et du fonctionnement d'un commissariat. Donc il n'y a pas énormément de communication et en fait ça peut empiéter sur certaines enquêtes que certains collègues mettent en place ou certaines enquêtes ou certaines surveillances qui sont en place depuis plusieurs heures, plusieurs jours, voire semaines en fait. Ça amène à faire des prises de produits stupéfiants sans les délinquants, alors qu'il y avait certains fonctionnaires qui étaient en train de travailler dessus.
Jean-Claude, vous connaissez bien cette ville de Marseille quand on entend ce policier.
J'ai pas tout compris. Hein.
Mais en gros, en substance, il dit que... Il y a des opérations qui sont menées d'un côté. Il n'y a, oui, a pas vraiment de communication entre les commissariats locaux et qu'évidemment, c'est pas toujours aussi efficace.
Il y a toujours
c'est pas simple.
Et des réserves possibles. Mais moi, j'approuve ce type de manifestation, y compris d'ailleurs, ça nous a tous surpris un peu, si on n'était pas prévenu, la visite du président de la République qu'on a rajouté. Il y a évidemment une part de com, tout le monde s'en rend compte. Mais en même temps, c'est positif parce que où on laisse filer et on ne peut pas dénoncer comme nous le faisons ici. Tous les jours, l'élargissement des phénomènes de drogue à Marseille, à Rennes, à Strasbourg et un peu partout, et refuser que l'on déclare la guerre, je dirais, quasi totale au trafic de drogue. Vous avez tout à fait raison. Il faut attaquer, il faut discuter avec le Maroc. Le Maroc, c'est compliqué. Je dirais pourquoi éventuellement tout à l'heure. Mais c'est pas simple. Mais encore une fois, il faut attaquer les fournisseurs, il faut attaquer les dealers. C'est normal qu'ils aient aujourd'hui, ce matin, sur Internet, dit « Ah ben on revient !» Ils essaient, ça prouve qu'il faut essayer de transférer l'inquiétude dans le camp des dealers et des jeunes délinquants. Et on fera le bilan de cette opération dans 15 jours, dans 3 semaines.
Ce qu'il y a de dingue lorsqu'on écoute ce témoignage, c'est qu'en gros, en substance, il dit les commissariats sont...
Il n'y a pas assez de moyens, c'est clair.
Il n'y a plus de moyens.
Il n'y a pas assez de moyens.
Et on est en France, là.
C'est évident qu'il n'y a pas assez de places de prison, il n'y a pas assez de moyens, il y a beaucoup à dire sur la politique pénale, etc., etc. Mais encore une fois, si on veut déclarer la guerre à la drogue, il faut s'y mettre. Là, on s'y est mis. J'espère que ça aura une suite. Parce que, je vais vous dire, si ça n'a pas de suite, c'est-à-dire que si dans un mois, c'est rebelote et qu'on recommence à Marseille comme ces dernières semaines, ça se terminera très mal pour les politiques.
Jean-Claude,
donc je pense que là, il y a une vraie volonté.
Jean-Claude, je parle sur le gouvernement de Thomas. Il y a 9 mois, Emmanuel Macron s'est rendu à Marseille. Oui, 3 jours après, il y avait des incidents.
Bien sûr.
Vous confirmez un peu la situation.
Il ne peut pas tout régler, lui.
Non, il ne peut pas tout régler, mais évidemment,
c'est pas un magicien.
On envoie des CRS et peut...
Évidemment, quand on fait une opération de cette envergure, il va falloir réussir à l'accompagner sur le plan de la logistique.
Bien sûr.
Compliqué. Il y a des magistrats qui ont été dédiés pour cette opération, qui sont venus en renfort. Et il y a eu une logistique qui s'est mise en place. La logistique, elle est exceptionnelle. Là, on parle d'une opération à Marseille. Moi, j'ai envie de vous parler des 500 mules qui ont été interpellées en Guyane en 2023. 500 mules, ça, là aussi, ce trafic de stupes à l'international gangrène l'activité des services de police, mais il faut bien la faire, il faut bien la mener, cette guerre-là. Et donc,
vous voyez, renforcement de la juridiction des Bouches-du-Rhône, plus 54 magistrats, plus 70 greffiers.
Mais ça sera une guerre éternelle, voilà. Ça sera très difficile.
Il faudrait donc ajouter des cellules, si on comprend bien, parce qu'en théorie, on
manque. Il faut livrer la bataille, sinon, chacun fait ce qu'il veut et on laisse aller.
Karima, deux mots, rapide.
Oui, mais c'est ça. Mais en fait, la France a fait le choix pour la santé publique. Il y a aussi un choix moral de ne pas légaliser la drogue. Il y a d'autres pays qui ont décidé de légaliser. C'est pas la panacée, mais ça a été un choix. Donc, à ce moment-là, si on se dit, on veut lutter contre le trafic de drogue, il faut mettre le paquet parce que sinon, il y a tellement d'argent en jeu. Ce sont des milliards de dollars qui sont en jeu. Alors, vous imaginez bien que les trafiquants ne vont pas s'arrêter. Ça, c'est certain. C'est certain. Alors oui, ça prend une présence constante. Ça prend des sanctions pour vraiment sanctionner les délits et les crimes. Et moi, ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui, c'est effectivement, on parle de Marseille, mais c'est l'étendue du phénomène maintenant dans les villes moyennes, les plus petites villes, et les victimes collatérales, les victimes donc vraiment innocentes qui sont mortes en raison de ces trafics. On pense à Sokaina, on pense à d'autres, et ça, c'est extrêmement
trop. Il fallait cogner fort. Et si on a un reproche à faire, c'est peut-être un peu tardif. Mais il fallait se décider à cogner fort. On verra les résultats.
Et je terminerai par cette information sur Marseille. Marion Maréchal qui demande un régime d'exception inspiré des lois italiennes d'anti-mafia, c'est ce qu'elle a dit cet après-midi via un communiqué cet après-midi. 23h30, je me suis toujours engagé à être à l'heure pour Maureen Vidal. On fait un tour de l'info avec Maureen.
Plus 32%, c'est la hausse considérable des crimes et délits racistes, xénophobes ou antireligieux en 2023. Le bilan alarmant est dressé par le ministère de l'Intérieur qui constate une accélération en fin d'année avec l'augmentation des actes antisémites. En tout, 15 000 infractions ont été recensées. Parmi les départements les plus touchés, hors Paris, le Bas-Rhin et les Alpes-Maritimes. hommage national à l'amiral Philippe de Gaulle, décédé à l'âge de 102 ans la semaine dernière dans la cour d'honneur des Invalides. Emmanuel Macron a salué le marin, le résistant, l'élu de la République qui aura tracé son propre sillon à l'ombre d'un grand homme, le général, son père. Probablement le dernier hommage national rendu à un grand combattant de la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, l'équipe olympique connaît désormais ses adversaires dans le tournoi. Les hommes de Thierry Henry affronteront les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et une équipe barragiste. La France qui démarrera son tournoi à Marseille le 24 juillet face aux Américains. Pour l'équipe féminine, le tirage est beaucoup moins clément. Quart de finaliste du dernier mondial, les joueuses d'Hervé Renard héritent des Canadiennes tenantes du titre, de la Colombie et de la Nouvelle-Zélande.
Merci Maureen. Allez, à la demande de Jean-Claude Dacier.
Qu'est-ce qui se passe ?
On va se parler de la chanteuse Aya Nakamura. Bah, faites pas cette tête.
Ouais, j'adore.
Je croyais que vous vouliez qu'on en parle.
J'adore. Ce qui me surprend toujours, c'est que ce soit le président de la République qui la désigne. Bon, j'avoue que j'ai du mal à me faire à cette idée du président omnidécisionnaire.
Oui, attention, on en parle beaucoup. Tous les médias en parlent.
Ça sera peut-être pas elle.
Mais il n'y a rien d'officiel.
Mais non,
c'est pas confirmé.
C'est des propos rapportés.
Ce sont des propos rapportés. En tous les cas, comme dirait l'autre, ça fait causer.
C'est un test, peut-être.
C'est un test. Mais je savais que vous aviez envie d'en parler. Vous avez réservé quelques petites choses. En attendant, ça fait causer, ça fait réagir. Écoutez ce que dit Marine Le Pen. Elle était interrogée chez nos confrères de France Inter.
C'est une provocation supplémentaire d'Emmanuel Pourquoi Macron Pourquoi qui doit tous les matins se lever en disant « Tiens, comment est-ce que je vais réussir à humilier le peuple français ? Comment je vais réussir à les indigner ce matin ?» Voilà.
Pourquoi
et
ça
et aujourd'hui, il est prolixe, il arrive à en trouver une par jour. Je vais vous parler de sa tenue, de sa vulgarité, du fait qu'elle ne chante pas français. Elle ne chante d'ailleurs pas étranger non plus, elle chante on ne sait pas quoi.
C'est du métissage.
Non, ce n'est pas du métissage, c'est du n'importe quoi. Enfin, pardon, regardez, lisez les paroles de ses chansons. La question est quelle est l'image que l'on veut donner de notre pays. Bon, elle n'est pas quand même la seule artiste à vendre énormément dans le monde.
Vous aimeriez entendre qui ?
Mais c'est pas le sujet, si vous voulez. Le sujet, c'est quelque chose qui doit rassembler, qui doit unir les Français. Alors, c'est difficile d'unir 100%, mais là, on voit bien que la volonté d'Emmanuel Macron, ça a été une fois de plus de diviser. C'est ce qu'il sait faire de mieux.
Et je rappelle que rien n'est officiel. Jean-Claude.
Mais je ne pense pas que ça soit ça son objectif. Parce qu'il n'est pas pervers et son objectif c'est de rassembler Macron, c'est pas de diviser les Français par ce choix qui peut être effectivement débattu.
C'est une des plus roses en
deux. Et qu'il l'est, mais c'est effectivement c'est quelqu'un qui occupe une place importante dans le paysage français. Je pense que ça me trouble tout autant, c'est que. Je crois que le choix de cette chanteuse, de la part du président de la République, correspond à la vision qui est la sienne des problèmes de l'immigration. Il considère qu'elle ressemble parfaitement à ce que sera la France dans 10 ans ou dans 20 ans, c'est-à-dire une France multiculturelle, avec des apports divers et variés, qu'il faudra sans doute regarder, contrôler. Mais je pense que ça correspond véritablement à l'image qu'il se fait d'un pays moderne.
Non, je pense qu'il veut, à mon avis, je ne veux pas parler à sa place, mais il veut faire une association entre la nouvelle génération, qui est un client de Aya Nakamura, et les textes d'Edith Piaf, parce que c'est ça l'idée aussi de départ. Je trouve que cette polémique est assez dommageable, et les propos de Marine Le Pen ne sont pas forcément à la hauteur.
Non, c'est pas à la hauteur. C'est
d'humilier le
peuple
français.
Ouais, d'accord avec toi. Et au même titre que lors de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby, le spectacle de Jean Dujardin avait été clivant, je pense qu'il faut laisser aux Français le choix de se faire un avis sur cette cérémonie. Dans les deux cas, nous avons affaire à des artistes qui sont très populaires.
Oui.
Et je pense que c'est la raison principale qui pousse à leur sélection.
Vous écoutez Florence Nakamura ?
Pas moi, mais mes enfants.
Bon, et vous en pensez quoi, vous ?
Et ils aiment, et ça leur plaît.
Bon.
Et ça correspond à leur génération.
Ah oui,
c'est voilà. Et moi, je crois que ça correspond à la jeunesse. Enfin, en tout cas, une grande partie de la jeunesse. Mmh. C'est une artiste qui est très écoutée aussi sur le plan international. Mmh. Alors, je ne sais pas exactement si c'est Emmanuel Macron qui lui a proposé de chanter Edith Piaf ou si c'est elle qui a voulu chanter Edith Piaf. Moi, de mon point de vue, j'aurais trouvé que ce soit bien qu'elle chante ses propres chansons. Ça, c'est mon point de vue. Je ne comprends pas du tout le propos de Marine Le Pen. Je trouve ça affligeant, en fait, pour tout
ouais,
dire.
D'accord, ouais.
Je trouve ça affligeant parce que je me dis, mais pourquoi cette espèce d'attitude comme ça, systématiquement hostile alors que
c'est son fonds de commerce. Hein.
Oui, c'est ça, voilà. Alors qu'en fait, c'est une artiste. Après, on peut aimer, on peut ne pas aimer. Mais je veux dire, elle est aimée par la jeunesse. Elle est connue à l'international. Okay. Et puis, pour répondre à ce que disait Jean-Claude Dacier tout à l'heure, mais la France, c'est déjà la diversité. C'est déjà la multiplicité. C'est déjà la France. C'est pas tout le monde est blond, blanc et a les yeux bleus. Vous voyez ce que je veux dire? Et heureusement.
Ça ne va pas sans un certain nombre de problèmes d'ailleurs. Mais les Jeux Olympiques sont.
Oui, mais c'est distinct.
Les Jeux Olympiques, c'est une grande manifestation internationale.
Mais c'est
et
distinct.
À cet égard, je pense que le choix du président correspond à l'image aussi qu'il a de ce que sont les Jeux Olympiques.
Allez, on écoute Franck Hester, je vous fais réagir, Karima. Franck Hester, qui était l'invité de Laurence Ferrari cet après-midi, le ministre chargé de la francophonie. C'est intéressant d'écouter.
Ce propos ressemble bien, finalement, à Marine Le Pen. C'est vraiment elle, là, on la voit. Et on voit bien la différence, justement, avec celles et ceux qui soutiennent cette idée. C'est sûr que c'est très différent de ce que est défend Marine Le Pen, bien évidemment. Elle est dans la modernité, elle est dans la jeunesse qui veut rassembler par-delà les clivages. C'est une artiste formidable, qui est une star dans le monde entier. Et je peux vous assurer que quand vous allez à un concert de Diana Nakamura, c'est exceptionnel. Il y a une ambiance formidable et il y a tous ces jeunes qui se retrouvent et que elle puisse reprendre une chanson du patrimoine de la chanson française lors des Jeux Olympiques, ça serait un formidable symbole de ce qu'est l'audace française, comme le disait très justement Bruno Le Maire. Et donc je trouve que les propos de Marine Le Pen sont vraiment pas au niveau.
Karima, rapidement, dernière réaction.
En fait, deux choses. Il y a, je pense, sur l'artiste comme tel, qu'on peut aimer, qu'on peut apprécier ou non. C'est une chose, c'est une grande performeuse quand même. Elle est très appréciée, elle est connue à travers le monde. Je pense que les attaques racistes sont complètement condamnables et malheureusement, on a eu droit à toutes sortes de choses absolument abjectes. Ça, c'est une chose. Ensuite, je pense que c'était quand même, il y avait un objectif politique à tout ça. Et je trouve que de lâcher comme ça en pâture, non, quoi que ce soit, sinon assumer, dire, ben c'est le choix, on est heureux, on présente, et voilà, c'est une fête, et on a décidé de. C'est ça que je trouve un peu déplorable, c'est de lâcher comme ça en pâture, et ensuite, on entend toutes sortes de choses. Et effectivement, quand on entend Marine Le Pen parler de la vulgarité, de la tenue, à un moment donné, ça dérape complètement.
Allez, on va rester dans les JO, si vous le voulez bien, avec cette annonce faite. Hier, je ne sais pas si vous l'avez vu ou remarqué par le Comité international olympique, les athlètes russes et biélorusses ne participeront pas à la parade de la cérémonie d'ouverture des JO à Paris. Côté russe, évidemment, la décision ne passe pas. On voit ça avec Audrey Berthaud et on en parle parce que c'est un débat de Soir Info.
Pas de parade sur la scène pour les sportifs russes et biélorusses. Après plus de deux ans de rebondissements liés à la guerre en Ukraine, le Comité international olympique a tranché.
Les cérémonies de Paris ont fait l'objet de discussions au sein du CIO et les principes suivants ont été établis. Les athlètes individuels neutres ne participeront pas au défilé des équipes des délégations lors de la cérémonie d'ouverture, puisqu'il s'agit d'athlètes individuels, mais ils auront l'occasion de vivre l'événement.
Le Kremlin n'a pas tardé à réagir. Pour la porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, c'est l'indignation totale. Les décisions du CIO sont illégitimes, injustes et inacceptables. Nous sommes indignés par les conditions discriminatoires sans précédent imposées par le Comité international olympique aux athlètes russes. Je veux en dire plus, le CIO est devenu un lieu où fleurissent le néo-nazisme et le racisme. C'est la seule façon de le qualifier. Les sportifs des deux pays devraient être peu nombreux. Seuls 12 Russes et 7 Biélorusses se sont pour leur qualifiés. Une décision concernant la cérémonie de clôture sera prise ultérieurement.
Ah, vous voyez, les propos sont très durs puisqu'on parle de néo-nazisme, évidemment. Et on va entendre et écouter Marc Adams, le porte-parole du CIO, qui répond évidemment aux attaques des Russes.
Nous avons vu des déclarations très agressives émanant de la Russie aujourd'hui. Mais il y a un commentaire qui va plus loin. Et nous en avons même vu un ou deux qui établissent un lien entre le président, sa nationalité et l'Holocauste. C'est tout à fait inacceptable. Et on tombe encore plus bas.
Jean-Claude, vous connaissez bien le sport, ça vous inspire quoi, cette polémique, évidemment? Et au milieu de tout ça, il y a des sportifs.
Oui, certes, mais je crois que le CIO a raison. Je pense qu'on ne pouvait pas accepter comme si de rien n'était les athlètes russes qui, qu'on le veuille ou non, vont soutenir.
Non, mais ils sont là sous bannière neutre. C'est juste qu'ils ne pourront pas parader
à
la cérémonie.
Ils seront dans les compétitions sous bannière neutre.
Voilà.
Mais là, ils ne seront pas du tout présents. C'est ce dont je parle.
Okay.
Je pense qu'il était difficile de... Alors, c'est injuste parce que la plupart d'entre eux sont probablement anti-guerre ou en tout cas ne sont pas des supporters absolument...
C'est pour ça que je me permets d'assister à...
dithyrambiques de Poutine. Mais néanmoins, dans l'incertitude et dans la nécessité d'avoir une position claire sur cette situation insupportable, je pense que le CIO a eu raison.
Laurence, et Amaury.
Moi, j'ai du mal avec tout ce qui est discriminatoire et je ne suis pas du tout d'accord avec cette décision parce que je trouve que ça me fait penser à Munich et les athlètes israéliens. Je ne sais pas pourquoi, ça me... Voilà. Je crois qu'il avait été question, à un moment, il y a eu un sujet sur notamment Israël et l'Eurovision, et tout ça.
Donc, sur les JO aussi.
Donc moi, j'aime pas qu'on mélange les genres. La politique, c'est la politique, le sport, etc. Bon, ce sont des sportifs, s'ils devaient défiler sous une bannière neutre, pourquoi les pénaliser finalement? Je trouve ça, voilà, c'est mon point de vue.
Amaury,
je suis d'accord avec vous, mais en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que les services de renseignement, si vous voulez, craignent que pendant les Jeux Olympiques, les Russes essayent à leur façon, vous savez, beaucoup, notamment avec des attaques informatiques, mais aussi avec des coups de pression et de l'influence sur les réseaux sociaux, de déstabiliser la France, voire d'aider à faire des happenings en France au moment des cérémonies. Et donc, ce qui est assez particulier, c'est qu'à la fois, vous avez la Russie qui va participer à ces Jeux Olympiques, et en même temps, on sait très bien que les Russes n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir déstabiliser la France au moment où tout le monde la regarde. Donc, c'est très ambivalent le rapport avec la Russie et notre rapport aussi avec les athlètes.
Finalement, c'est les athlètes qui payent.
Depuis
le début du conflit, il y a toujours eu cette problématique parce qu'on dit qu'ils ne s'opposent pas à la guerre, mais il faut aussi prendre en considération le fait qu'ils ont souvent de la famille en Russie et que leur prise de position, même si eux vivent à l'étranger, peuvent être retenus contre eux.
Les amis, on arrive quasiment au terme de cette émission. On va rester dans le sport avec deux images que je vais vous soumettre qui vont vous faire réagir, évidemment. Ce sont celles d'Emmanuel Macron. Il fait de la boxe. Moi, je ne sais pas qu'il faisait de la boxe. Je savais qu'Edouard Philippe faisait de la boxe. Ça, je le savais.
Aussi.
Et on voit, il a des biceps, le président de la République. Regardez, photo officielle, en fait, par sa photographe officielle. Vous en pensez quoi? Vous y voyez quoi? Moi, ça me fait penser aussi. Attention, je parlais de sport, je ne vais pas faire de mélange et quoi que ce soit, mais on se souvient que Vladimir Poutine aime s'afficher en tenue de sport aussi. Il y a des messages. Il y a quoi? Oui, quoi,
non,
vous?
Non, mais moi, ce que je vois, c'est que Soizic de la Moissonnière, qui est la photographe officielle, si vous allez sur son compte Instagram, les photos sont sublimes.
Ouais.
C'est vraiment, elle fait des photos merveilleuses.
C'est vrai, c'est vrai.
Et alors après, dans
Non, mais vous y voyez quoi, là?
Non, mais moi, je vois un homme qui...
C'est quand même le président de la République.
Et alors, il a l'air du sport.
Mais les photos sont quand même validées par l'Élysée.
Voilà, premièrement...
C'est quoi la com, là?
Oui, c'est-à-dire que c'est un boxeur, c'est quelqu'un qui se bat, qui se bat pour la France.
Opération coup de poing.
Non, mais moi, vous savez, puisque vous dites qu'il a fait du commerce, etc.
Non, bah alors, c'est pas du tout qu'il a fait du commerce, là.
Si je vous dis Vladimir Poutine, on le voit souvent...
Non, mais alors, quel rapport?
Non, mais
c'est intéressant de savoir...
Mais c'est intéressant aussi, est-ce que...
Oui, dans quel contexte les photos sortent, à quel moment? Bon, non, la séquence en ce moment, c'est quand même le fameux duel avec ce qui se passe. Je dis globalement, il y a quand même un duel en ce qui se passe avec la Russie. Il y a quand même ça aussi, de donner cette image de force, de puissance.
Bon, Florence, c'est sous le charme. J'ai bien compris. Jean-Claude, il dit rien, Jean-Claude.
C'est dangereux, comme on sait. Hein?
Jean-Claude,
enfin, c'est une interprétation, bien sûr.
Vous remarquez qu'on termine par du sport.
Il faut lire ça au premier degré.
Oui, bien sûr.
Qu'y a-t-il à la place ou dans la tête?
J'aime
du
pas
président.
Cette excuse que vous avez là. Ça traduit quelque chose.
Du sac sur lequel le président tape avec autant d'entrain.
C'est un visage sur ce sac.
Moi, j'ai vu un commentaire sous cette photo où il le comparait à Belmondo.
Belmondo.
Ouais.
Ok. Commentaire peut-être. Pas de commentaire.
Non, pas de commentaire.
Non. Oh, il est.
Pas de commentaire. Je crois qu'on a tout dit. Il y en a qui parlent quand même du fait que ça écorne un peu l'image présidentielle. Je pense que l'époque moderne veut aujourd'hui une communication qui est différente et c'est vrai que ça tranche avec ce qu'on a pu connaître dans le passé. Mais pour le coup, c'est vrai, les photos sont jolies.
Non, mais moi, ce que je trouve un peu perturbant dans ces photos, c'est justement qu'on ne sait pas quoi en penser. C'est-à-dire qu'on on met des photos de Macron.
Je vous ai donné les photos.
Avec un visage. Mais regardez son visage, c'est quand même un peu effrayant. On a l'impression qu'il a la rage, pourquoi pas. Mais
il est au combat.
On ne sait pas quoi en penser. Il n'y a pas de commentaire. Emmanuel Macron lui-même n'a pas.
Il se bat.
On ne sait pas quoi faire de ces images.
Les amis, on
se bat contre l'extrême droite.
La tradition, vous savez, c'est la traditionnelle revue de presse chez nos amis du Figaro. Ah, tiens donc, Thomas, dette, déficit, vente panique au sommet de l'État. Vente panique au sommet de l'État ou pas?
Bah, en tout cas, c'est le sujet du moment. C'est clair que là,
ça commence à faire beaucoup, en effet.
C'est pour ça. Les échos, allez, déficit, le scénario qui inquiète Macron.
Bah oui, continue, c'est une mauvaise notation des agences dans deux mois, dans un mois et demi, avec la montée des taux d'intérêt qui sont déjà élevés. Allez. Donc c'est extraordinairement préoccupant. Ça fait longtemps que je le dis, hein, sans vouloir jouer les oiseaux de mauvais augure. Et
aujourd'hui en France, enquête internationale, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? C'est un message, ça aurait pu être le mot de la fin. Nos confrères de la Voix du Nord, faut pas oublier la PQR, les réserves d'eau sont pleines. Les niveaux de précipitations de février ont permis de recharger les nappes phréatiques. Ouest-France, nos confrères de Ouest-France, le grand âge attend bien plus que la loi. Bien vieillir. Et puis, on va terminer par Varmatin. On termine sur une note sportive avec les patrons du Tour qui étaient face aux lecteurs. Et oui, le Tour de France qui a été présenté. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci mille fois, en tous les cas, de m'avoir accompagné. C'était un plaisir de vous avoir. Merci à l'équipe qui m'a entouré pour préparer cette émission. Martin Mazur, Céline Génaud, Laure Parra, Jérôme Vité. Merci à la programmation Magdalena Derville. Je salue évidemment toutes les équipes en régie. Vous pourrez revivre cette émission sur notre site cnews.fr. Je vous dis bye bye, belle soirée. Le journal vous est présenté par Mathieu Devez, me semble-t-il. Il me semble. C'est ça? Oui, vous me confirmez.
Non, c'est Mickaël de Santos.
C'est Mickaël de Santos. Mille excuses. Et moi, je vous dis bye bye. À demain soir, on sera au rendez-vous. La lumière sera allumée à partir de 22h30. Bye bye.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.